Tout un monde.
Marie-Hélène Fraxé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous, un petit bout de chemin en direction des sages de l'Asie et des poètes taoïstes en quête d'ivresse autant que de sagesse. Nous passons la demi-heure qui vient avec Zénobia Nu, bande-son Léo Bois du Shaanxi, l'âge d'or du jazz et du rock, Otis Redding, Chet Baker et In Memoriam, l'historique rencontre entre Yehudi Menuhin et Ravi Shankar. À l'Orient du cœur. Cette expression est de vous, Zénobia Nu. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est cette direction, l'Orient, qui depuis longtemps définit vos parcours de vie et d'écriture. Vous êtes poète, essayiste, traducteur, voyageur et sédentaire. Et à l'Orient du cœur, eh bien, c'est la phrase initiale du dernier de vos livres, D'un univers funambule, qui est paru en mai chez Gallimard, et puis quelques semaines plus tôt, a paru Poésie chinoise de l'éveil, un recueil de textes anciens que vous avez co-traduit et co-présenté avec votre vieux complice Patrick Carré. Une démarche qui prolonge bien des années plus tard un recueil fameux qui s'appelait La montagne vide, une anthologie de la poésie chinoise. Alors autant dire que dans votre œuvre abondante et éclectique, l'Orient, l'Extrême-Orient, chinois, japonais, en passant par l'Inde, tout cela occupe une place centrale et vous revisitez sans cesse donc cette direction avec quelques compagnons de voyage issus d'univers littéraires, musicaux très variés, du côté du modern jazz, du rock et puis de ces écrivains inclassables que vous nommez princes de l'ultrasensible. Alors, Zénobia Nu, cette impression que tout vient s'agréger, au fond, vers cette direction qui vous aimante et qui est celle de l'Orient.
On ne sait pas trop comment ça se définit, comment ça se trouve, une aimantation. On cherche chacun la lumière. Moi, je l'ai trouvée d'une certaine façon, et de façon presque humoristique, avec la lecture de Tintin au Tibet quand j'avais 10 ans. Et mon amour pour Hergé, ne sachant pas que quelques 15 ans plus tard, je me retrouverai à Lhasa avec mon colistier et compagnon Patrick Carré, quand les Chinois allaient ouvrir le Tibet. Donc il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a d'abord cet état de partance dont parle Wang Wei, le poète chinois magnifique, c'est-à-dire l'être lui-même comme état de partance, en mouvement continuel. Et là, évidemment, on a une autre philosophie de la vie. Tout redevient une sorte de socle mouvant avec lequel on peut jouer, avec lequel il n'y a pas de racornissement ou de simple approche intellectuelle. On est au cœur du domaine sensible. Moi, ça s'est manifesté par l'Orient parce que, d'une certaine façon, j'étais déjà fatigué à la fin des années 60 et au début des années 70 par le jargon contemporain de l'époque qui ne me parlait pas assez. Et pourtant, c'était pas rien, puisqu'il y avait des gens comme Deleuze, comme Foucault. C'était pas vraiment rien. Mais il me fallait autre chose. Alors j'ai commencé à lire des gens comme Krishnamurti, sur lequel j'ai fait un livre aussi. Donc il me fallait une espèce de... un moyen, une piste pour habiter la vie autrement, pour habiter le temps autrement.
Mais c'est une démarche générationnelle aussi, parce que vous n'êtes pas le seul dans votre génération. Donc vous êtes né en
1950.
Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas le seul à avoir choisi cette direction. Oui.
Enfant de Marx et du Coca-Cola, comme disait l'autre. Et donc, ça a de l'importance aussi, cet aspect générationnel, effectivement.
C'est l'époque de l'homme unidimensionnel, Marcus,
bien sûr,
critique radicale donc de l'Occident et de la pensée occidentale.
D'une certaine pensée occidentale que Roger Gilbert Lecomte, puisque vous savez, je suis aussi un défenseur des poètes du grand jeu, parlait de l'Occident comme un colosse à tête de crétin. pour dire les choses, évidemment,
magnifique,
on était à l'époque un petit peu
colosse
un petit
à
peu
tête
révolté,
de crétin.
Mais il y avait cette idée, toujours pour moi, de lier cette révolte nécessaire, toujours centrale, tout, à une rébellion d'ordre métaphysique plus importante, à une recherche, à une quête, à une façon de sortir de soi.
Alors, parmi ceux que vous agrégez autour de vous dans cette direction, donc il y a Artaud, très très présent aussi.
Artaud est central pour
voilà,
moi. Hein. Artaud est central.
Le grand déstabilisateur.
C'est mon grand déboussoleur, quoi. C'est-à-dire, c'est celui qui me remet vraiment vers l'axe central des choses. Donc, chez Artaud, j'ai commis un petit livre sur lui. D'une certaine manière, il y a tout ce que je recherche. Bon, je vais voir du côté de Van Gogh. Bon, Artaud a déjà écrit ce magnifique Van Gogh. Je vais voir du côté du théâtre Baliné. Artaud a écrit ce texte splendide, somptueux sur le théâtre Baliné, qu'il a vu une seule fois à l'exposition universelle. Mais, sans le savoir, il m'envoie à Bali. De la même façon qu'un merveilleux texte de René Dommal sur la musique indienne me dit, maintenant, il faut que tu ailles en Inde, voir comment ça se passe là-bas, comment ça éclot. Il y a des grands irrigateurs comme ça de la sensibilité, d'une autre sensibilité contemporaine, celle qui ne se contente pas des ronds et des carrés. Il y a une autre manière d'irriguer le monde, l'esprit, le temps, la lumière. Et le plus souvent, elle est donnée par des écrivains, par le monde de l'art, plutôt, pour moi en tout cas, que par des maîtres spirituels. Ça doit être mon vieux fond anarchiste.
Alors parmi ces affinités souterraines, il y a aussi, c'est moins évident, si on regarde du côté de l'Orient, Desnos.
Alors Desnos, c'est une sorte d'homme intégral pour moi.
Sur qui vous avez beaucoup écrit aussi.
Voilà, oui. Particulièrement dans le dernier livre. D'abord, c'est un médium. Il faut se souvenir de toutes les séances de sommeil médiumnique que pratiquaient les surréalistes, où Desnos était largement le plus doué et laissait Breton à des années-lumière derrière. Donc cette façon d'improviser un discours, il y a cette dimension donc du médium. Il y a cette dimension humaine extraordinaire qui finit donc malheureusement dans les camps. Et il y a cette importance, cette prépondérance accordée à l'amour sensuel notamment, qui en fait quelqu'un d'extrêmement moderne, d'extrêmement riche en facettes.
Alors Zenobianu, nous voici vraiment du côté de la Chine, puisque ce qu'on entend en ce moment, ce sont des moines du Shaanxi qui jouent du hautbois. Alors ça nous dirige vers cette poésie chinoise que vous aimez, poésie taoïste, poésie à laquelle vous avez consacré avec Patrick Carré un livre qui a fait date, qui s'appelait « La montagne vide ». Anthologie de la poésie chinoise, 3e, 11e siècle, donc c'est un livre déjà ancien, et puis un tout nouveau qui est sorti au mois de mars ou avril, Poésie chinoise de l'éveil, donc toujours avec Patrick Carré. Alors Patrick Carré étant le sinologue, donc
oui,
j'imagine...
Oui, un éminent sinologue.
Donc c'est lui qui déchiffre les poèmes, et c'est vous qui venez
et c'est moi
derrière.
Qui les défriche, si vous permettez ce jeu de mots. Non, je crois que c'est la traduction, là, est un exercice d'amitié. Je songe à ce mot magnifique de Marina Tsvetaeva, « Quand Rilke sera mort, je le prendrai par la main pour le traduire ». Donc, c'est un exercice d'une puissance réelle dans l'échange. Mais soyons simples, bon, c'est une sorte de ping-pong physique-métaphysique où on se renvoie sans cesse un quatrain jusqu'à ce qu'il nous apparaisse complètement adamantin, si vous me permettez le terme, et limé de tous côtés et présentable au public en montrant, en fait, dans le poème même, toutes ces variations possibles.
Donc, il vous donne au départ, lui, une ce sorte appelle, de décodage
on appelle ça excusez-moi pour les amis de Bourgogne, on appelle ça la version bourguignonne entre nous.
C'est-à-dire
un truc pas loin
brut
du mot à mot, brut de décoffrage, et qui est déjà avec des tas de petits signes cabalistiques qui permettent déjà d'ouvrir sur d'autres champs. Champ CHAMP, CHANT, donc, et d'ouvrir sur d'autres champs magnétiques qui vont nous permettre de, plutôt, de donner ce sens-là, de préférer ce sens-là.
Alors, vous avez donc, à partir de cette version, les échanges, les va-et-vient, et puis, à un moment, vous dites, le produit est fini. Enfin,
oui,
ça y est, c'est
absolument
abouti. Et là,
comme une peinture est finie, exactement.
Et l'enjeu, c'est que moi, lecteur, qui ne connais rien de la Chine, je puisse recevoir ce poème qui vient de très loin
dans le temps. C'est le seul enjeu. Ça a toujours été notre enjeu, c'est-à-dire de proposer une version faite par... Parce que Patrick a aussi une dimension de poète, évidemment, qu'il a montré dans ses nombreux livres. C'est présenter quelque chose qui tienne en français. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la plupart des traductions du chinois de l'époque des Tang, des grands classiques chinois? Il se passe que soit on a des choses de qualité mais qui sont retraduites à partir de l'anglais, soit on a des choses directement traduites du chinois par des universitaires ou universitaires et qui ressemblent à tout sauf à de la poésie. Donc l'idée, c'est quand même, ce sont des poètes qui brillent encore. On peut en parler avec un chauffeur de taxi chinois à Pékin. Donc pourquoi
mais
ces poètes...
Mais l'idéal, ça serait d'en parler avec un chauffeur de taxi français.
Ça serait magnifique. Mais pourquoi un poète qui aurait autant d'importance en Chine apparaîtrait en français comme du Soulamartine? Il n'y a aucune raison. Donc il faut que le poème soit à hauteur de poète, si j'ose dire.
Alors, je vais prendre un poème que vous traduisez d'un de vos auteurs favoris, donc Wang Wei.
Wang Wei. Hein,
la sublime terrasse. Nos adieux nous mènent à la sublime terrasse où le fleuve et la plaine sans ténèbres si loin. Les oiseaux reviennent à la nuit, voyageurs au départ infini.
Quelle beauté.
Alors, c'est magnifique, c'est limpide, mais je me
quelle
dis
beauté.
Tout d'un coup, tiens, c'est chinois.
C'est profondément
alors, tout
chinois.
D'un coup, c'est profondément
chinois. Il ne faut pas oublier
le
que les grands maîtres du haïku lisaient les poètes chinois des Tang. Donc, on a toute une espèce de câble physique et métaphysique, spirituel et poétique extrêmement puissant qui va relier même jusqu'à la Beat Generation, puisque Kerouac et Ginsberg étaient des fanatiques de Han Shan, un des poètes les plus chavirés, si vous me permettez le terme, l'un des poètes les plus chavirés chavirant à la fois de cette époque-là. Donc Kerouac dédie ses clochards célestes à Han Shan. Ensuite, on a cette extraordinaire efflorescence du haïku où ce sont tous, que ce soit Bachot, Issa, Buson, ce sont tous de grands lecteurs des Chinois des Tang dont nous parlons, et ils sont profondément influencés par leur science du quatrain, par l'idée comme ça de rassembler des univers, un monde entier dans une forme très courte, forme qui continue de perdurer de façon extravagante, puisqu'il y a encore des quotidiens japonais qui présentent un haïku en haut à gauche. Bon, je ne vois pas ça dans Le Monde quand je l'achète.
Ah ben, il y a parfois
quelques poèmes.
Alors, vous dites, Zenobianu, que, je vous cite, hein, « En ces poèmes traduits, la rencontre et l'union de deux contraires parfaitement complémentaires, que certains intérêts, quels intérêts, œuvrent à rendre irrémédiablement incompatibles l'Orient et l'Occident. » Donc, il y a une forme de combat chez vous.
Absolument, absolument, parce que l'Orient et l'Occident ne sont pas fondamentalement, centralement, ne sont pas que des zones géographiques, mais des façons de penser. Et ici, ce que nous privilégions, c'est une façon de penser orientale, mais dans laquelle on pourrait très bien mettre Jean de la Croix et d'autres grands mystiques grands mystiques chrétiens.
Mais alors, qui cherche à les rendre? On a l'impression qu'il y a, un parti comme ça du désaccord entre l'Orient et l'Occident qui œuvre à les rendre incompatibles.
Clairement, tout fanatique qui croit posséder un discours et qui croit être un maître de vérité. Donc, effectivement, tous ces gens-là conspirent, d'une certaine manière, à séparer ce qu'il y a de plus merveilleux dans ces deux entités extraordinaires qui nous constituent, non pas simplement comme des opposés, mais comme des contrastes.
Alors, il y a dans ces poèmes qui vont en gros du 3e au 11e siècle, et le deuxième tome, c'est aussi à peu près la même époque, des moments
Les poètes se sont fossilisés, il faut le dire
là-bas
aussi. Ils se sont fossilisés là-bas aussi, comme vous le dites très bien. Ils se sont fossilisés dans le référentiel, et pendant 10 siècles. Donc, c'est-à-dire, la vie de la poésie n'est pas la même selon les pays. Et là, il y a eu fossilisation au sens où tout devenait tellement référencé qu'il fallait connaître tel vers de Lippo pour pouvoir lire tel vers de Mangaojan, etc., etc., etc. Si bien que seuls des groupes de lettrés un peu étroits, quantitativement en tout cas, pouvaient comprendre ce qui se disait dans la poésie chinoise.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
Aujourd'hui, dans tout un monde, les chemins de traverse de Zénobia Nu, qui est notre invité, et son regard vers l'Orient comme voie de résistance, comme autre possibilité d'un développement de l'être, de la perception, de la relation au monde, qui ne nous est pas donnée de ce côté-ci, on va dire, de quoi? De l'Oural.
L'Orient est aussi pour moi, évidemment, un autre nom de la poésie avec une capitale. Et j'ai toujours considéré la poésie comme un espace de résistance à toutes les formes d'asservissement. Ce qui est passionnant avec nos poètes chinois, qu'il s'agisse de Wang Wei, de Lippo, de Mangaojan, de Han Shan et de tant d'autres, c'est que ce sont des lettrés. Mais ce sont des lettrés en rupture de banc, des poètes vagabonds, qui délaissent tout d'un coup leurs insignes, un peu comme si tous les trois quarts des hauts fonctionnaires de notre pays s'en allaient comme ça, vivre dans les montagnes, ou du moins puiser leur énergie profonde dans les montagnes. Alors ce qui est passionnant, c'est que ce sont aussi des adeptes de la poésie, en fait, comme forme ultime de l'engagement existentiel.
Le grand personnage étant l'ermite. C'est assez étonnant parce que beaucoup de
ces poèmes, ou le bûcheron.
Consistent à aller rencontrer celui qui s'est le mieux accompli, c'est-à-dire
l'ermite. Jusque dans la suprême absence, puisqu'on ne. C'est un genre, le poème avec ou sans ermite. Très rarement, l'ermite est vu, repéré, parce qu'il est comme le symbole de la volatilisation de l'ego. Donc il y a comme ça tout un cheminement à faire au milieu de ces paysages extraordinaires, quoi, parce que les montagnes chinoises sont déjà pleines de dragons taoïstes, juste à les regarder comme ça. Et là, il y a toute une puissance de la quête, de la recherche, qui fait que l'ermite soit là ou pas, c'est le chemin qui fait le but.
Alors, il y a quelque chose dans ces personnages et dans ces poèmes qui surprend aussi un occidental, c'est qu'il y a une quête à la fois, simultanément, de la frugalité et de l'ivresse. Ce qui, chez nous, en général, fait partie de deux horizons complètement différents, où on est frugal, où on est un peu porté sur l'ivresse et... Bon.
Ce qui est passionnant, donc, avec nos anciens chinois, c'est que l'ivresse n'obscurcit pas la sagesse, bien au contraire. elle est un tremplin, elle est un module qui permet de moduler à l'infini. On retrouvera cette expérience plus tard avec les, avec, bien plus tard avec les hallucinogènes ou avec des choses comme ça. Mais l'ivresse n'a pas pour but un abrutissement généralisé, bien au contraire, mais une sorte d'expansion du champ de la conscience.
Enfin, c'est à gérer avec prudence, quand même.
Qui est à gérer avec prudence, surtout que nos amis taoïstes pratiquaient plein de filtres étranges avec des broyages de pierres précieuses. Mais bon.
Et ce qu'ils appellent le vin, alors c'est pas véritablement
le vin. Le vin, c'est une sorte d'alcool, c'est une sorte d'alcool de fruits, tout simplement.
Parce que ça revient beaucoup.
Mais avec des mélanges divers. Donc le vin est simplement une expression générique pour dire l'ivresse.
Alors en fait, ce vers quoi vous êtes en quête, c'est au fond une sorte de, pas d'abandon, mais de complément à la raison discursive qui est la nôtre. C'est-à-dire l'Orient serait notre complément, pas notre contraire.
L'idée,
la part manquante.
Bon, j'ai toujours été fasciné par rien de grand, d'une certaine manière, ne se fait sans coïncidence des opposés. Et là, on a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est comme si on avançait tout d'un coup d'une façon qui ne soit plus tronquée. Qu'on avance pleinement avec toutes les possibilités de son corps. J'allais dire les possibilités occidentales, les possibilités de la raison raisonnante et les possibilités de la raison déraisonnante. Donc qui forment un tout et qui vont, d'une certaine manière, vers l'homme intégral. C'est l'expression idodomale et c'est une expression qui me fascine à juste titre.
Alors peut-être un mot justement sur ces compagnons de route qui ont avec vous regardé vers l'Orient. On parlait tout à l'heure donc de Domal. Est-ce qu'on ne remonterait pas aussi vers les romantiques?
Oui, bien entendu, vers les romantiques allemands, mais il y en a un gros, si j'ose dire, qu'on oublie, c'est Michaud. C'est Michaud comme voyageur intégral, intérieur, extérieur. C'est Michaud qui nous demande de visiter des lieux inexprimables. C'est Michaud qui nous dit, on contemple aussi bien le monde en se restant concentré 24 heures devant un mur. Mais il nous dit ça après avoir fait 36 fois le tour du monde, naturellement. Et c'est l'humour de Michaud qui garantit d'une certaine manière, j'ose dire, sa force et sa puissance et sa malice.
Alors là où ça rejoint un itinéraire générationnel, c'est qu'on voit émerger dans votre œuvre beaucoup d'essais ou d'allusions dans vos poèmes. On voit émerger la Beat Generation. Ça a
bien
été
sûr,
un peu vos grands
bien
frères.
Bien sûr, nos grands frères.
Ginsberg, oui. Corso, Kerouac.
Oui, dans le premier livre auquel j'ai participé, le fameux Manifeste électrique. Donc il se définit par rapport à toute cette force qu'a, bon, avec une volonté de bousculer ce qu'il y avait de plus, là encore, racorni dans la poésie française de l'époque, mais en même temps d'y insuffler tout ce souffle que Kerouac cherchait auprès des musiciens de jazz, tout ce souffle qui a emmené, c'était pas rien quand même, des millions de gens sur les routes, le souffle d'Allen Ginsberg dans la lecture de ses grands et immenses poèmes. Donc là, c'est comme si nos aînés étaient venus nous rejoindre pour ce fameux manifeste électrique qui portait bien son nom.
On retrouve les Dharma Bums, les clochards célestes de Kerouac. Et on aboutit alors à quelque chose qui semble encore plus loin, même si on va parler peut-être de certains aspects historiques concernant les Beatles, mais on aboutit au rhythm and blues et au rock.
Oui, mais là, c'est vraiment générationnel. Et pour moi, la figure de Dylan a été centrale pour moi. Parce que Dylan venait à la croisée, j'avais 15 ans, j'étais au lycée Lavoisier, Dylan venait à la croisée de tous ces chemins. D'abord, c'était un poète qui se revendiquait comme poète. Mais en même temps, il chantait comme les Stones, ou il chantait comme le British Rock de l'époque, et avec ce phrasé inimitable, « Don't follow leaders, watch parking meters », bon, sur lequel on restait comme ça en n'y comprenant rien pendant des mois, en allant interroger le prof d'anglais. Mais ce qui était intéressant, évidemment, et ce qui est devenu si important pour moi après, que ce soit dans mon travail, dans la poésie, dans le théâtre et tout, c'était la scansion, c'était la pulsation. Et Dylan faisait apparaître la pulsation du rock'n'roll, tout d'un coup, dans la grande poésie de Whitman. Et pouvait permettre à des jeunes gens comme moi, de découvrir la poésie par le rock. Parce qu'après avoir lu Dylan, j'ai lu Baudelaire, j'ai lu Rimbaud, j'ai lu Lautréamont et j'ai lu les surréalistes.
Alors c'est pas Dylan qu'on va entendre, mais c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup.
the morning sun, I'll be sitting the evening come, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away. Watching the tide roll away, just sitting on the dock of the bay, wasting time.
Alors ça c'est bien sûr Otis Redding, et quand on lit le texte Zenobianu, bah on a l'impression effectivement que c'est une sorte de haïku. Puisque I'm sitting on the dock of the bay,
ouais.
Je suis assis au bord de la baie, watching the tide roll away, regardant la marée qui se retire. Là, il y a une filiation, et pourtant Otis Redding,
a priori,
on n'y pense pas vraiment à ce lien avec l'Orient.
Ce qui est intéressant, c'est que c'était aussi, d'une certaine manière, quelqu'un de fulgurant et une sorte d'ange vagabond. Et ce qu'on sent toujours dans sa musique, ce qu'on sent chez nos anciens poètes chinois ou nos haïkistes ou chez les gens du grand jeu ou chez les gens de la Beat Generation, c'est une ambition, manifeste ou non, de relier l'homme aux forces vitales de l'univers. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et qui m'a toujours conduit dans ma quête. C'est cette idée-là qui est profondément écologique, pas de l'écologie à la petite semaine, mais de l'écologie profonde.
Et tout ça avec l'apport de la musique. Vous avez une très jolie expression, vous avez écrit plusieurs monographies de musiciens, vous dites « la musique troue les cœurs ».
Oui, c'est aussi le titre d'un de mes poèmes, je crois. « La musique troue les cœurs comme rien d'autre » et c'est devenu une espèce de chorus chez moi que j'utilise parfois sur scène comme un module d'improvisation.
Merci Zenobianu, on aura
Merci
compris que cet Orient donc cristallise au fond tous vos centres d'intérêt, toutes vos sensibilités, et qui constitue un très vaste éventail. Alors bon, je cite peut-être les livres les plus récents. Le dernier paru, D'un univers funambule, c'est de la poésie. Poésie chinoise de l'éveil, donc traduction, adaptation, présentation avec Patrick Carré, c'est paru chez Albin Michel dans Spiritualité vivante, c'était quoi, en mars-avril ?
Mars-avril.
Et puis en collection Poésie Gallimard, une déclaration, le désespoir n'existe pas.
Ambitieux.
Hein ? Et infiniment proche.
Aussi ambitieux.
Chet Baker, l'alliance secrète et immanquable de tous les dedans et les dehors. Je vous cite Zenobianu dans le livre que vous avez consacré à Chet Baker, Déploration, qui était paru au Castor Astral, avec cette note bleue qui vous est chère. Alors, Almost Blue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire presque triste.
Presque triste. Hein ? C'est dans
Autrement
le presque
dit,
que tout est
voilà.
Magnifique. Chet, d'une certaine manière, c'est le prince de la mélancolie. Mais c'est le prince de la mélancolie comme énergie, et pas simplement comme quelque chose de platement triste. C'est la mélancolie devient une force active chez lui, qu'il nous transmet, et qu'il nous transmet pour le meilleur.
Alors presque triste, on serait effectivement à deux doigts de l'être, mais on ne saurait l'être vraiment, puisque c'est la dernière émission de Tout un monde. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, car comme disait Jacques Lacarrière, le chemin ne finit jamais. Merci à Pascal Bénard pour la prise de son. Un très grand merci à Vanessa Nadjar qui réalise Tout un monde depuis plusieurs années, qui va suivre elle aussi de nouveaux chemins à la rentrée. Avec une bise à Claude Armand de Castillo qui a ciselé avec un soin d'orfèvre la page internet de Tout un monde, qui va rester en ligne bien sûr pendant des années, on l'espère. Tout un monde, c'est et c'était le magazine des cultures. D'une certaine manière, il a fait école, on s'en réjouit. Bonnes vacances et bel été sur France Culture. France Culture vous attend tout de suite. Vincent Charpentier, bonsoir Vincent. Oh, please.